Bienvenue! On a tous cette petite musique en tête qu'on entend partout dans les débats. Pour lutter contre la pauvreté, il faut créer de l'emploi. C'est simple, ça semble logique.
Oui.
Eh bien, l'article qu'on explore aujourd'hui, La vérité sur l'emploi, le chômage et la pauvreté, de Julien Lecomte, il prend cette idée et il la fait voler en éclats.
C'est exactement ça. D'ailleurs, l'auteur le dit lui-même, hein, le titre est un peu prétentieux, mais c'est volontaire.
C'est pour nous avertir.
Voilà, c'est pour nous dire, attention, on va plonger dans un sujet qui est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'objectif, c'est vraiment de déconstruire les slogans.
Et sans tomber dans le piège classique gauche contre droite.
Justement.
Notre mission aujourd'hui, c'est donc de suivre l'auteur dans cette déconstruction et de voir ce qu'il reste de nos certitudes à la fin.
Le point de départ, c'est ce que l'article appelle une fausse évidence.
Laquelle?
Celle qui dit que pour aider les plus démunis, il faut créer du travail. Ça semble couler de source, mais l'auteur va nous montrer comment les plus belles théories, en fait, s'effondrent face à la réalité.
Bon, alors allons-y. Pour commencer, l'article met face à face deux grandes solutions politiques.
Oui, deux solutions qu'on nous propose depuis des décennies.
Elles semblent totalement opposées, mais elles partent du même principe. L'emploi, c'est la solution. D'un côté, on a l'idée de partager le travail.
C'est ça, c'est la logique derrière la réduction du temps de travail, comme les 35 heures en France. La théorie est assez séduisante, tu vois.
Le gâteau du travail.
Exactement. Le volume de travail, c'est un gâteau. Si chacun prend une part un peu plus petite, eh bien, on pourra servir plus de monde. On partage, pour que tout le monde ait une part.
Sur le papier, la logique est imparable, mais dans les faits, est-ce que ça a fonctionné?
Alors, l'article cite un rapport parlementaire, celui de Barbara Romagnan, qui dit que oui.
Ah.
Oui, la mesure a bien fait baisser le chômage, et même, je cite, dans des proportions inédites, surtout entre 1999 et 2000. Donc il y a eu un effet, c'est factuel.
Mais ce n'est pas si simple, sinon on aurait résolu le problème.
Ben non, évidemment. Il y a le revers de la médaille, d'abord la critique classique de la droite sur le coût économique, bon, mais surtout il y a la réalité du terrain.
C'est-à-dire.
La plupart des Français, en fait, travaillent bien plus que 35 heures. On se rend compte que la logique de répartir le travail est entrée en collision frontale avec une autre logique.
Celle d'augmenter la charge de travail de ceux qui en ont déjà un.
C'est exactement ça.
D'accord, donc l'idée de partager le gâteau se heurte à des réalités complexes. Logiquement, l'autre camp politique a proposé l'inverse, ne pas partager le gâteau, mais le faire grossir.
Le fameux travailler plus pour gagner plus.
Voilà.
Et sur ce point, l'article est très direct. Ça a, je cite encore, encore moins fait recette. On est face au même souci, en fait.
Des théories trop simples.
Des théories très simples qui se fracassent sur un réel qui est infiniment plus complexe. Et puis, évaluer ces politiques, c'est un cauchemar, c'est tout de suite politisé, et on oublie de mesurer des impacts essentiels.
Comme.
Comme les conséquences sur la vie de famille, la fatigue, le stress.
Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que l'auteur ne dit pas juste que les deux solutions ont leurs limites, il attaque le problème à la racine.
Oui.
Il pose la question. Et si le problème, c'était l'idée même qu'il faut créer plus de travail?
Exactement. Il met en lumière deux phénomènes historiques qui, selon lui, rendent cette idée complètement dépassée. Le premier, c'est le progrès technique. C'est une évidence, mais on l'oublie.
On produit plus avec moins de monde?
Voilà. Pour produire la même richesse, il nous faut beaucoup, beaucoup moins de main-d'œuvre qu'il y a 50 ans.
Et le second phénomène?
C'est la mutation de la société. Notamment l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail depuis les années 70. Le volume total d'heures de travail rémunérées dans la société a littéralement explosé.
Attendez, mais ça c'est un paradoxe énorme. On a des machines de plus en plus performantes qui devraient nous libérer du temps.
Oui.
Et en même temps, le volume global de travail dans la société n'a jamais été aussi élevé. C'est totalement contre-intuitif.
C'est tout le nœud du problème. Et ça dynamite le postulat de départ.
Forcément.
Si la richesse est produite avec de moins en moins de travail, alors la solution n'est peut-être plus de distribuer du travail, mais de distribuer la richesse autrement.
C'est logique. Si créer plus de boulot, ce n'est pas la clé, l'autre grand levier, c'est l'argent, qui existe déjà. L'article se penche donc sur la redistribution.
Et on va voir que là aussi, ce qui semble simple sur le papier est un vrai casse-tête en pratique. L'article prend l'exemple d'une mesure qui fait toujours débat, une forte taxation des très hauts revenus. C'est le genre de mesure qui fait les gros titres.
Et qui fait immédiatement surgir l'argument numéro 1, l'exil fiscal. Si on taxe trop les riches, ils vont partir.
Sauf que l'article qualifie cet argument de probablement anecdotique.
Ah, ça c'est intéressant, il y a des chiffres.
Oui, selon une source citée, environ 4600 ménages très aisés ont quitté la France en 10 ans. Le manque à gagner pour l'État est estimé à 20 millions d'euros par an.
20 millions, bon, ça reste une somme.
Oui, mais il faut comparer. Et c'est là que le chiffre devient fou. En face de ces 20 millions, l'article met une autre décision politique, l'assouplissement de l'impôt sur la fortune, l'ISF.
Et là, le manque à gagner, c'est combien ?
5 milliards d'euros par an.
Ah, donc on parle de 20 millions d'un côté et 5 milliards de l'autre.
C'est ça.
Mais ce n'est même pas la même échelle. On a l'impression que le débat public se focalise sur une goutte d'eau pendant qu'une cascade coule à côté.
C'est exactement l'idée de l'article. L'exil fiscal existe, mais son poids est dérisoire par rapport à d'autres choix fiscaux. Et ce n'est pas le seul obstacle.
Il y en a d'autres.
La fameuse taxe à 75%, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel en France. Donc, il y a des blocages institutionnels.
Sans parler du traitement médiatique, j'imagine.
Bien sûr. L'article souligne que la presse, qui est souvent détenue par de grandes fortunes, a tendance à présenter ces mesures comme populistes, ce qui biaise le débat.
D'accord.
Guy, il y a la question de la spéculation financière. Des volumes d'argent colossaux qui circulent et qui sont très peu, voire pas du tout taxés.
Ok, donc on voit que la redistribution, c'est complexe, c'est politiquement très sensible. Et pourtant, pendant ce temps, l'action de l'État et le discours dominant se concentrent sur une autre cible.
Oui, et c'est là que le paradoxe est cruel. Plutôt que de s'attaquer à la structure du problème, on met la pression sur ceux qui en sont les victimes. L'article parle de chasse aux chômeurs.
Avec des mesures comme la baisse des allocations chômage au fil du temps.
Oui. Avec cette idée que, si on leur coupe les vivres, ils vont se bouger et trouver un travail.
Sauf que
ça ne marche pas. L'article s'appuie sur plusieurs études, belges notamment, qui montrent que cette stratégie est inefficace. Ce qui fonctionne, c'est un accompagnement humain, personnalisé.
Mettre la tête des gens sous l'eau ne leur apprend pas à nager, en somme.
C'est une bonne image.
Il y a cette autre idée qui refait surface tout le temps. Conditionner les allocations à un travail d'intérêt général. Une idée qui, pour le coup, est hyper populaire.
Extrêmement populaire. Un sondage parlait de 81% d'avis favorables. Mais c'est une autre fausse évidence que l'article démonte point par point.
Quels sont les risques alors ?
Le premier, c'est que ces petits boulots se substituent à de vrais emplois.
Ah oui. En clair, on remplacerait un agent d'entretien salarié par quelqu'un qui fait le même travail mais qui est payé par ses allocations. C'est une concurrence déloyale organisée par l'État.
Exactement. Deuxième risque, le coût. Organiser et encadrer ces travaux, ça coûte cher.
D'accord.
Troisièmement, la productivité d'un travailleur forcé. Bon, elle est rarement optimale. Et enfin, le plus pervers, pourquoi un patron s'embêterait à embaucher, avec les charges que ça implique, s'il peut avoir une main-d'œuvre quasi gratuite ?
C'est un engrenage potentiellement désastreux. Et tout ça, ça repose sur des clichés tenaces sur les chômeurs, que l'article dégomme un par un.
Oui, avec des chiffres d'une campagne de 2017. C'est une véritable rafale de faits.
Cliché numéro 1. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail.
La réalité à l'époque, 6 millions de chômeurs pour 190 000 emplois non pourvus.
Le calcul est vite fait, c'est mathématiquement impossible.
Cliché numéro 2. Les pauvres sont des assistés. La réalité, un sans-abri sur 4 a un emploi. Et 36% des gens qui ont droit au revenu minimum ne le demandent même pas.
Par honte ou...
Par honte ou parce que c'est trop compliqué administrativement.
Et le grand classique, la fraude sociale qui nous coûterait un pognon de dingue.
Là, la comparaison est vertigineuse. La fraude sociale, 150 millions d'euros. La fraude fiscale, 60 milliards. C'est 400 fois plus.
400 fois.
On se concentre sur 0,25% du problème.
C'est hallucinant. Face à ces chiffres, l'article pose une question qui est une vraie claque. Je la cite. « Au lieu de refuser que d'autres travaillent moins, sous prétexte que nous travaillons trop, ne pourrions-nous pas être solidaires et plaider pour que tout le monde travaille moins ?»
Et cette question, elle nous fait basculer dans la partie la plus radicale de l'analyse, la remise en cause du travail lui-même.
C'est là que ça prend une tournure quasi philosophique. L'article cite une phrase de Bertrand Russell de 1932 et c'est sidérant de modernité.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Le fait de croire que le travail est une vertu est la cause de grands maux.
Et cette phrase, elle nous ouvre la porte du concept des « bullshit jobs ».
Les boulots à la con.
Voilà, popularisé par l'anthropologue David Graeber. L'idée, c'est que notre économie produit en masse des emplois qui, au fond, ne servent à rien.
Des emplois dont les titulaires eux-mêmes pensent secrètement qu'ils ne devraient pas exister.
Exactement. L'article donne des exemples, la complexification administrative qui s'auto-alimente, la prolifération des métiers de la com, du marketing, des intermédiaires en tout genre.
La question simple à se poser, c'est Si cet emploi disparaissait demain, est-ce que le monde tournerait moins bien?
Eh bien souvent, la réponse est non. Voire, il tournerait mieux.
C'est un peu comme une machine très performante à laquelle on aurait ajouté des centaines de capteurs inutiles, des comités pour décider de la couleur des voyants et des consultants pour rédiger des rapports sur le bruit des capteurs.
C'est une excellente analogie. Au final, la machine est moins efficace et consomme une énergie folle pour rien.
On a sacralisé l'emploi.
Au point que l'important, ce n'est plus ce qu'on produit, mais le simple fait d'être occupé. Ne pas avoir d'emploi rémunéré, c'est devenu une tare sociale. Et cette organisation a des coûts cachés monstrueux.
Les embouteillages que cite l'article?
Oui. Du temps perdu, de l'essence brûlée, de la pollution, du stress.
Et l'article ressort une autre citation de Russell, toujours de 1932. « Si le salarié ordinaire travaillait 4 heures par jour, il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage. » Une journée de 4 heures en 1932.
C'est fou.
Il voyait déjà que le progrès technique devait nous libérer du travail, pas nous enchaîner à des boulots inutiles. Et nous, presque 100 ans plus tard, on en est encore à débattre des 35 heures.
On voit à quel point on est bloqué dans un modèle de pensée.
Bon, face à ce constat qui est quand même très sombre sur l'absurdité d'une partie de notre système, une idée radicale émerge logiquement. L'article aborde la piste de l'allocation universelle.
Le fameux revenu de base.
Le principe, c'est une révolution copernicienne. On déconnecte le revenu du travail.
Chaque citoyen reçoit une somme d'argent sans condition, juste pour vivre.
Voilà. Libre à chacun, ensuite, de compléter ce revenu en travaillant ou de se consacrer à autre chose. Se former, créer, s'occuper de ses proches. L'idée est de donner une sécurité de base à tout le monde. Mais on imagine que ce n'est pas si simple. Qui paie? Et est-ce que ce n'est pas trop beau pour être vrai?
En effet, l'article ne tombe pas dans l'idéalisme. Il présente aussi les critiques. La première, bien sûr, c'est le financement. Un chantier colossal. Mais il y a un risque plus politique, plus sournois.
On a l'image d'une idée très progressiste, de gauche. Mais l'article soulève un risque paradoxal.
Oui, le risque que ce soit un cheval de Troie néolibéral.
C'est-à-dire?
L'idée, c'est qu'en apparence, on fait un cadeau, un revenu pour tous. Mais en réalité, ça pourrait servir de prétexte pour démanteler tout le reste.
La sécurité sociale, les retraites, l'assurance maladie?
Tout. Le discours serait « Maintenant, vous avez un minimum pour vivre. Pour le reste, à vous de vous débrouiller sur le marché privé. »
Une sorte de charité d'État qui remplacerait la solidarité organisée. On voit bien que là non plus, il n'y a pas de solution magique.
Non, absolument pas.
Au final, après ce parcours, on a déconstruit beaucoup de certitudes. L'article de Julien Lecomte ne nous donne pas de recette miracle, et c'est peut-être tant mieux.
C'est ça qui fait sa force, je pense. Le but n'est pas de remplacer un dogme par un autre, mais de nous forcer à regarder la complexité en face.
L'enseignement principal, c'est peut-être qu'il faut sortir des débats stériles.
Oui, travailler plus contre travailler moins, solidarité contre assistanat. Il faut oser poser les questions qui fâchent.
À quoi sert vraiment cet emploi? Pourquoi le travail a-t-il une telle valeur morale? Et pourquoi s'obstiner à sauver l'emploi à tout prix quand les robots pourraient nous offrir plus de temps libre?
C'est une invitation à un changement total de perspective.
Et pour laisser matière à réflexion, l'article se termine sur une comparaison décapante. Il oppose deux formes d'oisiveté.
D'un côté, celle des chômeurs, qu'on critique, qu'on pointe du doigt.
Et de l'autre, une oisiveté totalement invisible et acceptée, celle des rentiers.
Ceux qui vivent de leur capital sans produire de richesses réelles pour la société et dont les activités spéculatives peuvent même, au contraire, rendre la vie de tous les autres plus chère.
Ce qui nous laisse avec une question finale, et elle est vertigineuse. Qui sont les véritables inactifs de notre système? Et si le but ultime, ce n'était pas de créer toujours plus de travail, mais enfin de mieux partager les deux choses essentielles, le travail qui est vraiment nécessaire et le loisir que tout notre progrès technique est censé nous offrir.